On est en train de faire une étude sur un sujet qui est très important. Ça fait plusieurs réunions qu'on en parle sur ce sujet-là, comme j'ai dit au début de la réunion. Le but d'apprendre à marcher dans les commandements du Seigneur, comme qu'on a dit dans les leçons antérieures, il y a plusieurs raisons pourquoi que Dieu nous demande d'être obéissants à sa parole et à ses commandements. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à aller écouter les messages. Moi, ça, j'y réécoute, puis ça me fait du bien, mais moi-même, des écouter, ça m'encourage. Dieu veut nous apprendre là-dedans, premièrement, à devenir obéissant, comme Jésus était obéissant. On veut être les imitateurs de Christ. On veut suivre les traces de Jésus. Il faut apprendre à obéir à Dieu le Père, comme Jésus a obéi à Dieu le Père. Puis Jésus a dit à ses disciples, « Si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. » Puis il l'a dit aussi dans une autre place, « Si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. » Puis il a dit dans une autre place, il dit, « Pour demeurer en lui, il fallait garder ses commandements. » Fait qu'à quelque part, c'est important de connaître c'est quoi les commandements du Seigneur. De quoi est-ce que Jésus parle? Aujourd'hui, on continue cette étude-là sur les commandements. Puis on veut regarder les commandements un par un. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que les deux plus grands commandements, c'était d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Fait que quand on étudie les commandements, les 10 commandements, on est en train d'étudier tout ce qui est, parce qu'en réalité, les deux plus grands, c'est comme un résumé des moyens commandements. Ils sont tous aussi grands aux yeux de Dieu, mais il a dit que c'était les deux plus grands. Il y a les grands, puis il y a les petits commandements. Vous savez que Jésus a dit, celui qui mettra en pratique, puis qui enseignera aux autres de mettre en pratique les plus petits commandements, il va être grand dans le ciel. Puis celui qui ne met pas en pratique, puis qui enseigne aux autres à ne pas les mettre en pratique, il va être le plus petit dans le ciel. Quel genre d'aide qu'on veut être l'autre bord? Mais ça va dépendre comment est-ce qu'on est fidèle dans notre obéissance au Seigneur aujourd'hui. Est-ce qu'il faut prêcher les commandements? Je crois que oui. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on veut se sanctifier si on ne sait même pas ce qu'est le point qu'il faut changer? Parce qu'il y a des points qu'il faut changer dans nos vies. On veut marcher dans sanctification. Ça, c'est d'être de plus en plus consacré au Seigneur pour arriver à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée puis de toute notre force. Mais pour cela, il faut connaître les commandements comme plus en détail. Il faut en parler. Le commandement qu'on est rendu à regarder aujourd'hui, c'est le deuxième commandement, de ne pas se faire d'objet de culte. Le Seigneur, il a clairement défini dans ses commandements les limites qu'un disciple peut faire, peut aller, ne peut pas dépasser, parce que tous les commandements, c'est dans le but de nous mettre comme des bornes chaque bord dans notre vie. C'est comme si Dieu nous montre le chemin et dit, quand tu fasses là, tu as le droit d'aller jusque-là. Si tu dépasses ça, tu débarques du chemin. Tous les commandements sont là pour éclairer notre marche, éclairer notre chemin. On le dit dans d'autres versets, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si tu veux être éclairé dans le sentier de Dieu, faut que tu lises sa parole. Puis on va voir que les 10 commandements, Jésus et les apôtres y en ont parlé. Jésus et les apôtres les ont mis en pratique, mais ils en ont parlé, ils ont expliqué ça dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. On va regarder le passage dans Exode au chapitre 20, les versets 4 à 6, qui est le deuxième commandement. Tu te feras point d'image taillée, ça c'est des statues, ni de représentation quelconque, ça c'est des dessins, des choses qui sont d'en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu te prosterneras point devant elles, ça veut dire de se mettre à genoux devant ça, et tu ne les serviras point, ça c'est d'être à leur service. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Amen. Ce passage-là est en train de nous dire que quand tu te fais des statues, des images pour te faire un objet de dévotion, un objet de dévotion, c'est un objet de culte, un objet, soit en statue ou en image, quelque chose qui est là, que tu as dessiné ou que tu as sculpté, que tu mets là dans le but de prier cela, ou dans le but de te mettre à genoux devant ça, ou dans le but de servir cela comme si ça sera ton Dieu. Il est en train de nous dire, il veut pas qu'on fasse cela. Dieu appelle ça, ces images-là et ces statues-là, il appelle ça des idoles. On va parler de l'idolâtrie, parce que c'est ça que ça veut dire, de ne pas être idolâtre, dans le deuxième commandement, ça dit « fais-en pas ». On va parler d'idolâtrie parce que l'idolâtrie était présente autant passé dans les anciens temps, même en Égypte. Mais depuis le début, les gens sont voués à se tourner, à se faire des statues, des images. C'était présent dans le temps de Jésus, puis c'était présent encore aujourd'hui. Faut pas penser que c'était des choses juste dans ce temps-là. Il y en a encore plein de religions qui ont des idoles présentement. Ça, c'est au premier degré. Ce commandement-là, quand on le prend au premier degré, c'est des statues, des images et des idoles. Mais au deuxième degré, la Bible en parle aussi au deuxième degré, quand on parle de l'argent, c'est mammon. Tu peux pas servir Dieu et mammon, ça veut dire que tu peux pas avoir un attachement à l'argent, puis dépendre de l'argent, mettre ta confiance dans l'argent comme si ça serait ton Dieu. C'est une divinité, c'est une idolâtrie autant d'être en amour attaché à l'argent. Ça dit pas que de pas en avoir, mais ça dit que c'est une idolâtrie. Il y a des versets qui en parlent dans le Nouveau. Mais je parlerai pas de cela, ni de la cupidité. Parce que il y a un verset qui le dit dans le Nouveau Testament, où c'est que la cupidité est une idolâtrie. Si t'es en amour avec les biens, puis tu cherches juste à posséder les biens, puis ton idée, c'est de focusser à mettre tes efforts, accumuler des biens, t'es un idolâtre aux yeux de Dieu. Sans compter aussi toutes les idoles que le monde se font, l'idole de la chanson, idole du hockey, idole ici, idole là, du monde, ils cherchent des personnages à élever, comme il y a des religions qui élèvent des personnages pour devenir des idoles. On pourrait tout englober aussi que Dieu veut pas qu'on soit idolâtre. Parce que l'idolâtrie, c'est comme si notre cœur s'attache à autre chose qu'à Dieu. On dit pas nécessairement que c'est un autre Dieu, mais que tu passes envers un autre. Si tu vas puis tu fais une prière à un autre intermédiaire que prier à travers Jésus, dans le nom de Jésus, puis d'atteindre Dieu le Père, t'es en train de passer par des idoles. T'as soit une statue, un crucifix, une médaille de Saint-Ci, Saint-Ça, Saint-Pias. Des médailles, il y en a toutes les sortes. Dans le dictionnaire grec, dans le Strong, quand il parle d'une idole, pour le mot idole, dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a plein de places que le mot idole est là, ou idolâtrie, le mot idole, c'est une image, ou une ressemblance, ou une reproduction des traits, fait que si tu arrives et tu penses, hein, tu te fais un dieu dans ta tête, hein, tu le dessines, tu es en train de t'en faire une image que Dieu veut pas que tu fasses d'image d'un dieu. Une représentation ou la forme d'un objet, parce qu'il y en a que Dieu, pour eux, c'est un objet. Ou ça peut être comme un animal, là. Ils se font un dessin, ils prennent un veau d'or, puis ils pensent que c'est le Dieu qui, comme le peuple d'Israël ont fait, ou que ça soit Baal, le Dieu des Belzébuth, qui est le Dieu des mouches, dans ce temps-là, où il y avait des dieux. De toutes sortes de dieux, pareil comme les religions aujourd'hui, ils se font des statues représentant tous les dieux. Que ce soit des formes d'objets réels ou imaginaires, des images, des portraits de ces dieux-là, ou les ombres des défunts. Ça va jusqu'à penser à que ta grand-mère qui est morte, puis tu décides de la dessiner pour la prier, tu es en train de te faire une idole. Ou que ça a eu des apparitions, quelqu'un qui dit « j'ai vu un ange qui m'a apparu, puis il était assis, puis il était ça, puis là, il dessine son ange pour pouvoir le prier encore pour y rendre un culte. Il est dans l'idolâtrie. Des spectres, des fantômes, l'image d'un dieu païen ou d'une idole, on en connaît plusieurs, un faux dieu, ou une image conçue dans l'esprit, dans l'imagination. Tu peux t'imaginer, oh, moi, je vois Dieu comme cela. Là tu te mets à faire une représentation. Tu es en train de te faire un dieu à ta perception, à toi, et non pas à ce que lui, il est vraiment. Il n'y a personne qui a vraiment vu Dieu. Tu peux pas te le représenter avec quelque chose de matériel. Une image aussi, ça va jusqu'à l'image réfléchie dans l'eau. Quand tu te regardes dans l'eau, puis tu vois une image réfléchie, puis commencer à faire cela. En fin de compte, Dieu veut pas qu'on se représente rien de ce qui pourrait être, ou de s'en faire un Dieu à notre image, à notre ressemblance, ou à notre manière de voir les choses. Il défend cela dans le commandement. Puis dans le commandement, il nous dit trois choses face aux idoles. Puis il faut bien comprendre que ça s'adresse à tout le monde. Parce que les commandements, ils étaient donnés au peuple juif, mais ça s'adresse aussi aux chrétiens aujourd'hui. Dans le commandement, il dit, tu t'en feras pas. On n'a pas le droit d'en fabriquer. On n'a pas le droit de sculpter des objets pour commencer à prier cela. Même si ça serait un crucifix qui dit, je pense à Jésus quand que je prie cela, mais tu es en idolâtrie devant Dieu. Il dit de ne pas t'en fabriquer. Il dit de ne pas se prosterner. Ça, c'est de se mettre à genoux devant cela. Puis il dit aussi de ne pas les servir. Parce qu'il y a des gens, comme nous, on dit qu'on est au service de Dieu, on sert Dieu, on fait un culte à Dieu, on rend des louanges à Dieu, on est en train de faire un service religieux. On est en train de servir Dieu, à glorifier Dieu par nos chants, par nos louanges, par des prières. C'est un service à Dieu qu'on fait, un service religieux. Mais les églises idolâtres qui ont des statues puis s'adressent à quelqu'un d'autre que Dieu, le vrai Dieu est révélé, comme je l'ai dit, il n'y en a pas d'autre Dieu que le vrai Dieu de la Bible, mais ils sont faits un autre Dieu parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu, ils passent par un autre intermédiaire que Jésus, fait qu'ils ont un autre Dieu. En réalité, nous, les chrétiens, on peut pas participer au culte des autres dieux. On peut pas servir les autres dieux dans un service religieux, assister à leur culte, puis participer à leur célébration, à leur idole. On deviendra autant participant de leur idolâtrie, puis on en sera coupable parce qu'il dit, tu les serviras pas. Si tu vas à leur culte, tu es en train de les servir comme eux autres sont en train de faire leur propre service envers leur Dieu. Toutes les cérémonies, la manière qu'une cérémonie est faite dans les cultes religieux, c'est eux autres croient que c'est leur Dieu qui leur demande de faire telle et telle chose. Si nous, on est là, on participe à leur culte, on est en train de désobéir au deuxième commandement de Dieu. La plupart des religions se fabriquent des objets de culte. La plupart. Des grandes religions qu'on connaît, là, soit qu'ils se font un dieu ou se font des demi-dieux, puis ou c'est des humains qui vont vénérer des personnes, puis ça, souvent c'est des personnes décédées qui pensent qu'ils sont encore là, puis tu peux t'adresser à eux, tu t'en as fait ton dieu. Parce que si tu y parles à celui qui est décédé, c'est comme si tu étais en train de dire, « Seigneur, moi j'ai pas le temps de te parler, je pense que mon oncle ou ma grand-mère qui est morte, elle est Dieu, elle m'écoute, elle est toujours avec moi, je peux lui demander des choses, puis là on est en train de faire de l'idolâtrie aux yeux de Dieu. » Ou de prier des animaux, comme je disais tantôt, il y en a des religions que c'est un rat qui est le Dieu, ou une vache, ou tout, un chat, tout dépendant de quelle religion ils sont. Un exemple de cela, qu'est-ce qu'il y avait dans le temps de Jésus? Les Romains, ils exerçaient un contrôle sur l'ensemble quasiment du monde connu de cette époque-là. Puis, eux autres, il y avait le dieu grec. Ils se faisaient des statues. Puis là, je ne veux pas nommer tous les faux dieux, parce que Dieu ne veut pas qu'on prononce même les noms de leurs faux dieux dans le sens pour comme si ça serait une importance. Ça n'existe pas. C'est des choses qui se sont inventées, puis que c'est pas le vrai Dieu de la Bible. Donc, c'est des faux dieux, puis pour nous, ça n'a aucune valeur. Sauf que quand tu pries ça, il y a des conséquences. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus loin dans mon message. Les dieux grecs, Après ça, on voit que l'Empire romain, ils ont continué, eux autres aussi, avec leurs statues puis leurs idoles de ces dieux-là. Ils ont juste changé de nom. C'est encore la même affaire qui se perpétue encore aujourd'hui. Les églises sont encore pleines de statues, puis ils s'adressent encore à des gens que pour eux autres, sont comme déifiés. C'est comme des dieux pour eux. Prier Marie, prier les saints, passer par d'autres intermédiaires que de passer par Jésus. C'est là qu'on voit comment est-ce que l'égarement peut amener les gens à pécher, puis ils savent même pas qu'ils pêchent contre le commandement de Dieu. En plus de ça, quand on sait qu'il y a des religions qui ont modifié la Bible pour leur avantage, en enlevant ce commandement-là de ne pas se faire de statue, puis en ajoutant un autre commandement à la place. C'est vraiment dans la parole de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, de ne pas se prosterner devant des idoles. Peu importe. Dans Romains chapitre 1, le verset 23, ça dit: ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, ou des oiseaux, ou des quadrupèdes, ou des reptiles. Les gens changent la gloire de Dieu. Paul est dit, pas Paul, c'est dans l'Ancien Testament, c'est écrit: quand je contemple les cieux, œuvre de tes mains, quand tu regardes la grandeur de cette création-là, c'est quelque chose, là. Tu te dis, comment est-ce qu'il est grand, ce Dieu-là? Puis là, tu t'en vas te faire un Dieu qui ressemble à un homme. Ouais, ça sera juste un homme, là. Oh oui, il est bien fin, bien smart, ce gars-là. Okay, on en fait notre Dieu. On se fait une statue d'un homme, puis on pense que c'est lui qui a tout créé. Ça n'a aucun rapport, frères et sœurs. C'est vraiment être perdu que d'aller se prosterner devant des hommes ou devant des animaux ou devant, que ce soit un quadrupède, ça c'est des vaches, puis les reptiles, il y en a qui se prosternent devant les reptiles, puis ils pensent que c'est le Dieu. Il n'y a rien de ce qui a été créé qui est vraiment ressemblant à Dieu. En plus, ils se font plusieurs images ou des statues de ce qui n'est pas considéré comme des dieux, mais comme des intermédiaires. Parce que oui, il y en a qui se font des dieux, ils vont le nommer, ça c'est un dieu. L'autre, ils vont le nommer un demi-dieu. Puis l'autre, ils vont dire, ben ma grand-mère qui est là, elle est morte, mais rendue au ciel, puis elle écoute toutes mes prières, puis je peux lui demander de l'aide. Ils se font... C'est, des fois, c'est même pas quelqu'un qui vivait dans la foi sur la terre, puis ils s'en font comme si ça serait un ange gardien ou quelqu'un qui est partout en même temps, comme s'il serait devenu Dieu. Ça marche pas de même du tout. C'est vraiment être ignorant de ce que Dieu a dit dans sa parole à propos que quand on meurt, où est-ce que les humains vont quand ils meurent? La Bible, elle l'a dit, j'ai fait une série d'études là-dessus. Il y a deux endroits que tu vas après la mort. Soit tu es mort pardonné, tu t'en vas dans le sein d'Abraham, dans le lieu de repos, en attendant de ressusciter. Ou soit tu meurs dans tes péchés, tu t'en vas dans le séjour des morts, dans l'Hadès, ou appelez ça le Sheol, tout dépendant du mot grec, du mot hébreu. C'est un lieu d'attente pour les morts, ce que les gens souffrent déjà, puis attendent la résurrection pour être jugés devant le grand trône blanc, puis être jetés dans l'étang de feu à la fin. Il n'y a pas de place pour ceux qui meurent et qui s'en vont remplacer Jésus ou aider Jésus. Il y en a juste un qui est ressuscité et qui est à la droite de Dieu présentement, c'est Jésus. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, puis c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Toutes les autres intermédiaires que les gens sont faites, c'est tout du mensonge. C'est tout contraire à l'enseignement de la Bible. Comme qu'on a vu la semaine passée, dans le premier commandement, Dieu dit, tu t'en feras pas d'autres dieux devant ma face. Puis là, dans le deuxième commandement, il dit, fais pas de statues ni de photos représentant soit Dieu lui-même ou un autre Dieu. Parce que ça l'offense Dieu. Dieu veut pas qu'on le représente. Même si tu dis, moi, je veux dessiner le Père ou faire une photo du Père. Tu peux pas faire une photo de Dieu le Père. Tu peux pas dessiner des dessins pour imiter Dieu le Père. Dans Jean 4, 24, ça nous dit « Dieu est esprit ». Il faut que tu l'adores en esprit, en vérité. Dieu, là, c'est un esprit, c'est pas un corps humain comme tout le monde pense. Ils font une image d'un homme. Dieu, il est pas un homme. Dieu, il remplit l'univers par sa présence. C'est l'esprit du Créateur. Tu peux pas dessiner cela. Dans Isaïe, au chapitre 40, le verset 18, super de beaux versets. Dieu dit, « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? » Tout ce qui existe présentement dans la création, c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce qui est là, c'est des choses de matière, puis il n'y a rien qui est à l'égal de Dieu. Tu peux pas dire Dieu ressemble à un arbre, parce qu'il y en a qui pensent dans le Nouvel Âge que Dieu c'est un arbre, t'es la nature, puis quand tu communies avec la nature, t'es en train de communier avec Dieu. Ça n'a aucun rapport. Dieu, il n'est pas un arbre. Dieu, il n'est pas une rivière, parce qu'il y en a que pour eux autres, la rivière, c'est à Dieu, la source de vie, les poissons, la manger. Puis pour eux, c'est à leur Dieu. Le Nil en Égypte, c'était une rivière comme sacrée pour eux. Il y a des religions, s'en ont fait des dieux sur tous les objets. Mais il n'y a rien qui est Dieu là-dedans. C'est toute la matière que Dieu a créée, mais que c'est pas Dieu. Dieu, il est esprit. Tu peux pas le représenter. Puis il veut pas que tu cherches à le représenter. La minute qu'un humain décide de dessiner Dieu, il est en train de le réduire. Dieu, il remplit l'univers. Tu peux pas le réduire à un dessin d'une chose terrestre. C'est complètement absurde. Puis si vous dites que Dieu, il me ressemble, peut-être, mais moi, je vous dis que c'est pas moi. C'est une blague. Dieu, il nous dit pareil dans sa parole. Il dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu vois pas, puis t'aimes pas ton frère que tu vois? Il veut qu'on apprenne à s'aimer. On peut rester le bête, mais qu'on arrive là au bord, puis qu'on voit Dieu, il ressemble à celui que j'aimais pas sur la terre. Non. Mais Dieu nous a créés à son image, mais c'est au sens figuré que ça nous dit cela. Ce n'est pas au sens que je suis l'image de Dieu. Quand vous me regardez, voyez Dieu. Jésus l'a dit, quand vous me regardez, voyez Dieu, mais il ne vous l'a pas dit nécessairement, juste l'aspect physique. Là. Tu vois Dieu dans son amour, sa puissance, sa grandeur, sa miséricorde. Tu vois Dieu dans ses caractéristiques, mais Dieu... C'est sûr que Jésus, c'était Dieu fait homme. Il a pris cette forme-là. Mais quand il est ressuscité, ses disciples ne le reconnaissaient pas. C'était comme s'il pouvait prendre d'autres apparences. Là. C'était comme pour mêler les affaires. L'idée, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à la chair et le sang. Ça n'a pas rapport avec Dieu. La chair et le sang n'héritent pas du royaume. Quand on va ressusciter, on va avoir un corps qui nous est propre, comme Dieu va le décider. Mais il y a une chose, on ne sera plus des corps... blessés, infirmes, malades, puis souffrants. On va être des corps en top, top shape, top, comme Dieu va vouloir nous créer. Et il dit, à chaque grain, là, il y a son apparence quand il se développe. Hein? Un grain de blé d'Inde, ça, quand il pousse des épis, puis tout le kit, mais l'autre, c'est un grain de blé, ça ressemble à d'autres choses. Mais nous autres, faut pas s'attacher aux choses de ce monde. Dieu, il ressemble à rien de ce qu'il y a dans ce monde. Fait que le verset, je l'ai trouvé super. Il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Il n'y a rien de semblable à Dieu. Là, la question qu'on se pose, jusqu'où Dieu nous demande de réagir face à l'idolâtrie? Parce qu'on est tous confrontés à l'idolâtrie, un jour ou l'autre. On est tous confrontés à ça. À rencontrer soit des idolâtres qui veulent nous emmener à participer à leur idolâtrie, ou nous-mêmes être tentés à aller vers les choses puis se faire des objets, commencer à prier ça. Ça, c'est des tentations du diable de nous faire pécher contre le deuxième commandement de Dieu. Mais jusqu'où un chrétien doit-il combattre contre l'idolâtrie? Mais dans le Nouveau Testament, là, on va regarder des passages dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu demande à ses enfants de fuir tout ce qui est idolâtre, tout ce qui a rapport à l'idolâtrie. Il nous dit de fuir l'idolâtrie dans 1 Corinthiens 10, 14. Ça nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Faut se sauver en courant. Faut pas mettre les pieds là-dedans. On est dans le péché quand on rentre là. Dieu, il a ça en horreur. Puis dans le commandement, il dit qu'il est jaloux. Tu peux pas dire que tu veux le servir en venant à l'église puis louer le Seigneur ici, le Dieu de la Bible, puis après ça, t'en aller dans un autre temple, puis d'un temple d'idole, puis commencer à dire que tu sers les idoles que là, puis penser que Dieu, ça y dérange pas. Il dit, fuis cela. C'est un péché, c'est un piège. La Bible dit que lorsqu'on participe à une réunion, là, on va comprendre une vérité spirituelle. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans des versets. Quand on participe à une réunion, comme les réunions qu'on fait là, nous autres, un culte d'adoration, un culte de louange à Dieu, une adoration religieuse, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, là? Nous sommes en communion avec le sujet du culte. Tu viens ici pour rencontrer Dieu. Tu vas louer Dieu, tu vas prier Dieu, tu viens pour être en communion avec ce Dieu-là. On vient pour être en contact avec, on veut en être rempli, on veut en être vêtu, on veut ses bénédictions, on veut être touché par lui, on veut recevoir des touches de tous les gens comme qu'il nous le promet. C'est ça qui est le but d'être dans la réunion pour venir rencontrer notre Dieu. Regardez bien, pour nous en tant que chrétiens, notre communion est avec le sang de Jésus puis le corps de Jésus. Regardez bien dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 16 et 17. Ça, ce verset-là, ça renforce l'idée, il faut que je sois avec le corps. C'est important, ma communion est avec le corps de Jésus puis avec son sang. Il dit, la coupe de bénédiction, quand on fait le pain et le vin, ça a l'air insignifiant, là, mais ça a l'air de rien. Mais on est en train de représenter dans le partage de la coupe que tout le monde en boit, puis que tout le monde mange un morceau du pain. On est en train de représenter une vérité spirituelle qu'on vit ensemble, qu'on participe au corps et au sang de Jésus. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion avec le sang de Christ? Quand on partage la coupe, prenez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance qui a été versé pour vous. Là, tu prends de la coupe, tu es en train de démontrer que tu participes à la coupe du Seigneur. Tu participes à son sang. C'est son sang qui fait qu'on est sauvé. C'est son sacrifice, c'est son sang qui a versé, qui a permis qu'on puisse être sauvé. Il dit, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps? Ça, c'est pareil comme si on prend un pain, un seul pain, qui est le corps de Jésus, puis là, tu le casses en morceaux, puis on a tous chacun un morceau. Fait que tous ensemble, on participe au corps de Jésus. Un seul corps. C'est une démonstration spirituelle de ce que nous vivons dans notre communion avec le Seigneur. Amen. Il dit, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Belle vérité. Car nous participons tous à un même pain. Ça, c'est une vérité spirituelle. Je vais vous parler de la même idée, mais dans un autre verset, dans 1 Corinthiens 10, le verset 18. Quand on voit dans la parole de Dieu les sacrificateurs dans le temple, tu sais, dans le temple, dans le temps de Jésus, puis même avant, t'amenais un animal, là, il l'offrait en sacrifice, il l'offrait à Dieu, là, il égorgeait l'animal, le sang coulait, il récupérait le sang, il purifiait le gars, le péché du gars va tomber sur l'animal, puis après, cet animal-là était brûlé en sacrifice à Dieu, puis les sacrificateurs avaient le droit de manger cet animal-là. C'était la nourriture des sacrificateurs. Puis les sacrificateurs puis les Lévites vivaient de ce que les gens donnaient dans le temple comme nourriture. Bon, regardez le verset que je veux vous parler dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 18. Il dit, « Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, les animaux qui ont été offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? » Là, c'est Paul qui est en train d'expliquer ça, que quand les sacrificateurs avaient offert cet animal-là en sacrifice, il était sanctifié, il était déclaré saint, cet animal-là, parce qu'il a participé, il était brûlé sur l'autel qui était sanctifié, devant Dieu, consacré à Dieu, puis les sacrificateurs pouvaient en manger, puis là, Paul est en train de dire, ces gens-là, ils sont en communion avec Dieu, là, avec l'autel, puis avec le sacrifice, parce qu'ils participent à leur culte. En faisant leur cérémonie puis leur rituel, ils offraient ça à Dieu, c'était consacré à Dieu, puis là, ils étaient en communion avec l'autel. Là, ça revient un peu comme la même idée que nous, nous sommes en communion avec Dieu parce qu'on participe dans notre réunion. Dieu nous enseigne, écoutez bien cette vérité-là, Dieu nous enseigne dans le Nouveau Testament que lorsqu'on participe à un culte d'idoles, nous devenons en communion avec ces idoles. Là, c'est fort. Il est en train de dire ça à des chrétiens. Le Seigneur nous demande de fuir l'idolâtrie. On ne peut pas, une fois que tu es chrétien, continuer à rester dans des temples d'idoles parce que tu es rendu en communion avec ces idoles-là. Autant que quand on participe à un service dans l'Église du Seigneur pour te rapprocher du Seigneur, tu es en communion avec le Seigneur. Les Israélites, quand ils étaient dans leur service, ils étaient en communion avec le sacrifice sur l'autel. Mais il dit à des chrétiens dans ce verset-là, dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 19 et 20, à 22, allez sortir ça, ceux qui ont des Bibles. Le Seigneur nous demande de fuir l'idolâtrie et tout ce qui a rapport aux autres dieux et aux idoles. Même, allez, jusqu'à où qu'on va fuir, là, parce que aujourd'hui, là, il se passe des choses dans le monde, je vais vous l'expliquer un peu. Même jusqu'à la viande qui aurait pu être offerte à ces faux dieux, les viandes sacrifiées aux idoles, il dit de fuir, puis de pas toucher à cela. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 19 à 22, il dit, Paul est en train de dire, d'expliquer ça, cette vérité-là, que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nous, on le sait que ça n'existe pas, mais pour eux, ils sont en communion avec leurs idoles, ils pensent à leurs idoles. Il dit nullement, c'est rien, mais je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Quand que la viande ou le culte ou le service que tu es en train de faire à un idole, t'es en train de le faire à des démons, c'est pas des faces, là. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tantôt, je vous dis, quand vous venez dans une église qui appartient à Dieu, puis qui prêche la parole de Dieu, qui s'adresse au Dieu de la Bible, dans le nom de Jésus, t'es en communion avec Dieu. Si les Israélites, ils faisaient un sacrifice à l'autel, puis le sacrificateur qui mangeait la viande qui avait été sacrifiée à l'autel à Dieu, il est en communion avec cela, avec ce que Dieu demandait à cette époque-là. Mais là, il dit que quand tu vas dans un temple d'idole, puis tu participes à leur service, ils font pas ça à Dieu, ils font ça à des démons. Les idoles, ça n'existe pas, des idoles, mais ils font ça à des démons, puis ils ne veulent pas que les chrétiens soient en communion avec des démons. C'est grave. Ça rejoint exactement le deuxième commandement de Dieu qui dit, tu t'en feras pas d'idoles, de statues, d'images, puis tu te prosterneras pas devant cela, puis tu les adores, tu les serviras pas. Parce que se prosterner, c'est de les adorer, c'est le mot adorer. Il dit, je veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Puis le regardant encore, on continue au verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur. Quand on est ici, on boit la coupe du sang de Jésus. Puis on participe à son corps qui est son un pain. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Parce que quand si tu t'assis là, en plus d'être assis ici, tu peux pas être en train de t'abreuver aux deux endroits. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur pas à la table des démons. C'est pas la place d'un chrétien d'aller s'asseoir d'un temple d'idole puis de commencer à participer au service religieux envers ces idoles-là, il est en train de se souiller spirituellement parlant. Quand tu viens à l'Église, tu es en train de tu confesses tes péchés, puis tu demandes au Seigneur de te purifier par le sang de Jésus, tu es en train de te faire laver. Quand tu vas dans un temple d'idoles, tu es en communion avec des démons, tu sors de là tout beurré. Tout beurré de souilleux de démons qui sont après toi, parce que tu étais abreuvé à des démons. C'est grave, le monde ne pense pas à cela aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc. Puis regardez bien le verset 22, c'est l'autre verset qui suit le même texte. Paul ajoute qu'il y a des jugements possibles du Seigneur à cause du deuxième commandement de Dieu. Il dit, dans 1 Corinthiens 10, 22, « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Ça veut dire que quand tu es assis dans un temple où il y a des idoles, des faux dieux, des statues... Peu importe à qui ça s'adresse, que c'est pas à Dieu ni dans le nom de Jésus, ils s'adressent à d'autres intermédiaires puis d'autres dieux. Ils sont en train de se souiller avec les démons. Là, il est en train de nous dire que quand tu es assis là, tu peux provoquer la jalousie du Seigneur. Où est-ce que Paul est allé chercher ça, cette idée-là? Il est allé chercher dans le deuxième commandement. Quand Dieu dit, tu t'en feras pas, tu te prosterneras pas, puis tu serviras pas, car l'Éternel, c'est un Dieu jaloux. Amen. Dieu, il est jaloux. Il peut pas partager sa gloire avec les autres, mais dans un autre sens, il veut pas que sa fiancée, ses enfants, ses élus, qui viennent boire à lui, qui viennent s'abreuver à lui, puis qui reçoivent ses bénédictions, ils aillent s'asseoir avec des démons, puis qu'ils aillent s'abreuver à cela. Ça, c'est de faire éclater la jalousie du Seigneur puis de risquer d'avoir un châtiment de Dieu. Paul, il a sorti cela parce que c'était écrit dans le commandement. C'est pour nous dire que les commandements de Dieu sont inclus dans la Nouvelle Alliance. Il y a les mêmes conséquences dans la Nouvelle Alliance d'aller se mettre devant des idoles que les Juifs en avaient quand ils étaient devant des idoles. Relisez l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament, vous allez voir comment Dieu était content quand son peuple s'en allait se souiller avec des idoles des autres peuples qu'il y avait autour. Le Seigneur s'attend à ce qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Il n'y a pas de place pour d'autres dieux ou des idoles. C'est ça le commandement, le plus grand commandement que Dieu veut. On s'attache à lui de tout notre cœur. Fait que quand quelqu'un se... Comme j'ai dit tantôt, c'est pourquoi fuyez l'idolâtrie. Quand il voit un chrétien fuir l'idolâtrie, il va dire, « Ah, je touche pas à ça, c'est sale. Je veux pas me souiller. Moi, je veux rester au Seigneur. » Mais le Seigneur est fier. Il voit que tu veux le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quand on résiste, qu'on fuit, on démontre que ça n'a rien en nous. On n'a aucun intérêt. Jusqu'à où est-ce que ça va aller, notre désintéressement aux choses démoniaques? Il y a les idoles, carrément, là, ça, c'est au premier degré. Y a-tu d'autres places, vous pensez, qu'on pourrait être en communion avec les esprits mauvais, puis tout ce qu'il y a de souillé, toute sale? La télévision, comme entre autres. Des films sont complètement en train de prier le diable. Soit le diable, non, des représentations du diable, des démons, de la sorcellerie, des pouvoirs occultes. Tout ce qui appartient au diable, là, les chrétiens, le dimanche, qui seraient à l'église en train de louer Dieu, puis être en communion avec le sang de Jésus, puis en formant un seul corps, puis qu'après ça, ils vont écouter un film avec plein de ils pourraient être en communion avec des démons, parce qu'il y en a à TV aussi, là. C'est un piège du diable, autant qu'une église. Une église qui serve des faux dieux sont aussi pires que le film qui te présente un faux dieu. C'est la même affaire, là. C'est qu'il faut discerner ce qui peut nous rendre sales, impurs devant Dieu. Notre communion avec Dieu, là, notre contact, ça c'est quelque chose qu'on a là, quand tu nais de nouveau. puis que c'est quelque chose qu'on développe tant que tu es chrétien. Hein? Notre communion avec Dieu, c'est quelque chose qu'on développe avec Dieu. En théorie, là, plus qu'on s'approche du Seigneur, plus notre communion est intense, plus qu'on vit des choses, des belles choses avec Dieu. Amen. Ben, notre communion avec Dieu va s'intensifier si nous fuyons ce qui appartient au diable. Tu peux pas dire que tu es en pleine communion avec Dieu quand tu es en pleine communion avec des démons. Tu es rendu tout sale, puis tu t'en rends même pas compte. Des fois, tu ressens cette saleté-là, puis tu sais pas c'est à cause de quoi. Mais tu avais deux pieds dans la boîte quand tu étais là. Tu t'es beurré. T'arrives là, tu penses que t'es encore saint, puis t'es encore pur. Dieu, il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Il parle à des chrétiens, parce qu'il y en a des chrétiens qui pensent qu'un chrétien peut pas être affecté par des démons, parce que l'Esprit de Dieu est là. C'est une fausseté. La Bible a dit, ne donnez pas accès au diable. Où vous pensez que le diable commence à prendre l'accès dans la vie d'une personne? Bien pensé. Puis il passe dans notre bouche, dans nos sentiments, dans notre amertume, le non-pardon, il se passe des affaires, puis les mauvais esprits travaillent là-dedans. Puis après ça, quand on vit carrément, mettons, si on est en adultère, on est dans notre chair. On va voir le prochain verset, là, ça nous parle de cela, puis on en parle pour être sensibilisé qu'il y a des souilleux, des choses qui nous souillent dans le monde, puis il faut fuir cela. Alors regardez 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 16. Paul est encore en train d'expliquer des vérités là, pour qu'on soit sensibilisé là-dessus. Il dit, quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu, c'est ici, on est le temple du Saint-Esprit, là. Dieu habite au milieu de nous, il marche avec nous, on est son temple. Quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Là? Pourquoi qu'on se sentirait qu'il faut être attaché à cela? Quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, puis ils seront mon peuple. On marche avec Dieu, on est son peuple. Nous sommes le temple de Dieu, rien de commun que les idoles. On n'en veut pas d'idoles, on fuit l'idolâtrie. Mais regardez le verset 17, c'est celui-là que... Les deux prochains versets, les deux, trois prochains versets, qui sont les pires. Mais pas les pires, c'est les mieux, je trouve. Les plus importants dans le sens du sujet que je veux vous parler. Il dit, c'est pourquoi? Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Dieu est en train de dire qu'on est son temple. Mais il dit, sors de là, touche pas à ça, c'est sale, puis je vais t'accueillir. Parle à un chrétien, pourquoi que Dieu dit qu'il va nous accueillir quand on vient de dire qu'on est son temple? Parce que quand t'es rendu là, t'es plus avec Dieu. Dieu m'a pas ses pieds là. Quand t'es en train de te souiller avec des idoles, Dieu dit, sors de là, touche pas à ça, puis là, je vais t'accueillir. Là, après ça, il va se développer une intensité dans ta communion avec Dieu. Quand tu es là, tu es dans le péché, tu es en train même d'exciter la jalousie du Seigneur sur le point de manger une plaque en arrière de la tête. Puis Dieu, il l'a fait dans le Nouveau Testament. Il dit, c'est pourquoi qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont infirmes, malades, d'autres sont morts. C'est des jugements du Seigneur. Le Seigneur châtie ceux qui l'aiment, ceux qui reconnaissent ses fils. Attends, faut pas faire exprès d'en manger des claques en arrière de la tête. Faut sortir de là. Il nous avertit. Il n'y a pas juste ces versets-là. J'ai fait une série sur les idoles. Il y a d'ailleurs au moins 12 messages. Avec tous des versets dans la Bible qui parlent de pas toucher à ça, puis des versets qui nous le dit d'une manière ou nous le répète d'une autre manière. La Bible, il en parle tout le long, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, de pas toucher à l'idolâtrie. Il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Nous, quand tu marches avec Dieu, tu es rendu pur. Jésus l'a dit à ses disciples, il dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Tu passes par le sang de Jésus, tu es purifié. Après ça, dans ta marche, tu as juste tes pieds à laver parce que tu te salis les pieds en marchant. Tu demandes pardon, tu confesses tes péchés, puis il te purifie. À mesure que tu avances dans ta vie chrétienne, tu es pur. Nous sommes purs devant Dieu parce qu'on est purifié par le sang de Jésus. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. On est purifié par son sang. On avance dans la pureté continuellement. On est continuellement pur devant lui, sauf quand on se souille. On l'est pu. On a besoin de demander pardon pour être renouvelé. Fait que quand on est deux pieds là, il dit, touche pas à ça, c'est impur. C'est le contraire d'être pur. Nous, on veut être pur. Mais ça, ça rend sale. Parce que les démons, ça salit. C'est des péchés. Touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Il continue, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Il dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, la promesse de marcher avec ce Dieu trois fois saint, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. » Ça veut dire, « Sors de ce qui est impur, touche pas à ce qui est impur, puis si tu te salis en cours de route, demande pardon, demande que le sang de Jésus te purifie. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Amen. Voyez-vous, quand tu sors des idoles là, de ta vie, là, puis tu t'arrêtes de toucher à ça, tu es en train de te sanctifier. Tu es en train de te purifier. Tu es en train de devenir de plus en plus pur parce que tu arrêtes de toucher à ce qui pourrait te salir. Il y a plein d'affaires que Dieu nous appelle à relâcher, à tosser, à fuir. Il dit fuyez ça, l'idolâtrie, il dit de fuir ça. De ne pas toucher à ça pour qu'on soit de plus en plus pur. Puis là, il dit, je vais vous accueillir, puis je vais être pour vous un père, puis vous allez être pour moi des fils et des filles. Prenons garde, frères et sœurs. Il y a un dernier verset que je veux vous sensibiliser. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il n'y en a pas juste un qui dit exactement la même affaire. N'oublions pas qu'il n'y a aucun idolâtre qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Dans Apocalypse 21:8. C'est pas le seul péché qui ne rentre pas, mais il n'y a aucun idolâtre, c'est mentionné dedans. Il dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. On veut pas aller dans la seconde mort. On veut rester en communion avec Dieu, gardant notre communion, intensifiant notre communion. S'arranger pour pas faire rien qui pourrait le souiller. C'est pas n'importe qui qu'on a en nous. On a l'Esprit Saint. Quelle devrait être notre marche, sinon une marche dans la sainteté? Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Seigneur, garde-nous dans ta main. Donne-nous de voir clair les situations, les choses qui pourraient nous souiller, nous rendre impurs. On te demande, Seigneur, de nous donner de la haine pour ces choses-là, puis qu'on fuit ces choses-là, qu'on puisse s'attacher à toi de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et continuer à nous purifier par le sang de Jésus. On veut garder notre place avec toi. Dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.